À dire énormément de choses, on a lancé deux pistes juste. On a dit que par exemple ce serait bien de relancer le savoir pour savoir entretenir les haies, parce que quand même il y a une perte de savoir là-dessus. Et puis l'autre piste c'était d'enlever l'élevage pour augmenter la ressource en bois. C'est pas du tout le... Et bon, après on pouvait poser la question l'élevage, quelle sorte d'élevage qui est quand même plus utile à enlever en priorité, parce qu'il y a quand même élevage et élevage. On a vraiment mis des guillemets à élevage. Voilà, et on a un peu discuté autour de ça.
Est-ce qu'on accepterait que la zone, ici, République autonome du Bocage, devienne une forêt? S'il n'y a plus d'élevage, en gros, c'est quasiment une forêt qu'on aura dans le coin. Donc on aura de la ressource en bois, mais...
Et c'est un peu un moment idéal pour vous parler d'un autre atelier qui va se passer samedi de 16h à 18h à El Capitan, qui s'appelle Bocage et pâturage, dans lequel on va être invité à imaginer différents scénarios sur l'élevage et à quel point ça va transformer ou pas notre paysage. Voilà, c'est casé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer?
Je pense que c'est intéressant si toi, tu précises un tout petit peu le propos qui était le tien, non?
Vas-y.
Oui, après, je pense que c'était assez clair, mais c'est en gros, admettons en 2020 ou l'année prochaine, la République autonome du Bocage décide de mettre... Alors moi, ma position, c'est interdire l'élevage, la chasse, et voilà. Et du coup, comme impact que ça peut avoir, c'est du coup de libérer énormément d'espace, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'élevage prend beaucoup d'espace, que ça soit pour des cultures, pour nourrir les animaux, ou directement par le pâturage des animaux.
Et tout élevage ?
Moi, ma position, c'est tout élevage, mais après, c'est ma position. Et du coup, le fait de libérer tout cet espace, ça permet d'avoir du coup de l'espace où qu'on peut laisser évoluer sol pour amener énormément de bois, puisque du coup d'ici 2050, si on n'y a plus d'élevage là cette année, d'ici 2050 en fait la succession végétale fait que ce sera de la forêt. Et du coup, on aura beaucoup de ressources en bois.
C'est un vaste sujet de discussion qui méritera de... Ce sera au moins un référendum, hein. Je pense qu'il faudra au moins ça.
Il faudrait autoriser 4-5 poules par maison.
Est-ce que je peux mettre juste
la chasse,
des...
ça peut être...
Je partage à la volée des repères juste sur là ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire dans 25 ans, autour de nous, il y a une forêt. C'est-à-dire plus que tous les espaces pâturés sont des forêts.
Très jeune forêt.
Voilà, c'est oui. Ça. Donc, si on imagine, donc succession végétale, là, en 25 ans de libre évolution, je mets une petite pièce, je dis... Qu'est-ce qui se passe en 25 ans d'évolution là, on en a par la fenêtre, là, dans un paysage comme ça. Est-ce qu'il y a de la forêt? J'en doute. Est-ce qu'il y a un début d'espèces... des arbres, pionniers, type des bouleaux, des trembles qui sont venus, qui ont peut-être 10, 15 mètres, 20 mètres de haut, ça me semble crédible. Oui, sans doute, on aura quelque chose qui ressemble à ça, mais on n'est pas en train de parler d'une forêt climatique européenne avec des chênes et des hêtres, à mon avis, certainement pas en 25 ans. Et si maintenant on essaye d'intervenir humainement, la densité qu'on plante aujourd'hui en forêt, c'est de l'ordre de. Entre 1000 et 1500 plants à l'hectare. Donc là, on parle de centaines d'hectares où il faudrait mettre donc des centaines de milliers de plants sur plusieurs années. Et en fait, bon, déjà, c'est des métiers qui sont hyper... On peut mécaniser, etc. Mais bon, c'est énormément de ressources financières. Et après, il faut produire les plants. Et aujourd'hui, on est déjà dans un contexte de tension de plants qui est en France, qui est depuis des années, qui est très, très fort. C'est-à-dire le fait d'arriver à trouver des plants en grande quantité, de bonne qualité. Et là, je ne rentre pas dans le débat de d'où ils viennent. Où est-ce qu'ils sont produits? En Europe de l'Est, ailleurs, etc. Donc, c'est un enjeu en production qui est majeur, quoi. Donc, je pense que se dire dans 25 ans, en laissant libre évolution, on a une forêt autour de nous, ça me semble douteux.
Alors, du coup, moi, c'était sans forcément produire de plants, mais du coup, pour aider à faire en sorte que y ait certaines essences d'arbres, et bah, c'est enrichir la banque de graines de la prairie en juste jetant des graines, des noyaux, d'essences d'arbres. Et ces essences d'arbres, ça peut être des essences d'arbres qui sont du coup locales, et aussi pour la dimension changement climatique, de ramener des graines qui sont à 100 km, qui sont du coup d'essence d'arbres qui sont à 100, 200 km, 300 km plus au sud. Et sans forcément que ça soit directement des plantations de plants, mais juste.
Alors attention, il ne faut pas trop partir dans un débat, donc il y a d'autres.
Je
peux
enchaîner parce que du coup, on a parlé de la ressource génétique. Alors, c'est une. Moi, je trouve que c'est intéressant de se projeter dans des scénarios très différents. Je pense qu'il y a la question, au-delà de la ressource en bois, il y a la question de ce qu'on mange aussi. Enfin voilà, en fait, aujourd'hui, c'est des questions qui ont beaucoup lieu dans le monde agricole entre l'énergie et l'alimentation. Donc, par exemple, aujourd'hui, les méthaniseurs, une des critiques des méthaniseurs, c'est que la ressource qui serait destinée à l'alimentation est destinée à produire de l'énergie. Et donc là, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire des terres, sans parler d'élevage ou quoi, des terres destinées à l'alimentation deviennent en partie plutôt pour de l'énergie. Ou alors pas fonctionnel pour l'humain, et à ce moment-là, ça repose la question un peu anthropologique dont parlait Max tout à l'heure, sur l'extensivité de la fonctionnalité des espaces qu'on utilise autour de nous, enfin, ou qu'on n'utilise pas. Donc j'enchaîne, nous notre question c'était comment faire le lien entre climat qui change et l'agronomie, le bois qui pousse, qu'a-t-on besoin de savoir et comment agir? Donc on a assez rapidement parlé des essences, donc de la génétique, notamment des arbres, avec donc les impacts qu'on disait. Des choses que j'ai notées, c'est peut-être dans la posture accueillir les nouveaux voisins, c'est-à-dire plutôt que de se dire que des espèces sont invasives, se dire que certaines espèces qui viennent coloniser des espaces, donc on a parlé de l'élianthe, du sycomore, ou d'espèces comme ça, de se dire qu'on peut être dans une posture plus d'accueil de nouveaux voisins, on a dit ça, et en même temps aussi d'apprendre à planter ou à ne pas planter, c'est-à-dire à favoriser une... Donc ça rejoint un peu... Enfin, c'est pas que ça rejoint, c'est que c'est la question de est-ce qu'on utilise des espaces, est-ce qu'il y a des espaces qu'on entre guillemets, qu'on n'utilise pas ou qu'on laisse, même à une toute petite échelle, en plus en régénération naturelle, assister ou pas. On a parlé aussi dans la même lignée de planter des ormes résistants et non résistants. Donc ça, la réflexion, ça a été autour de... on a arrêté de planter des ormes parce qu'ils ont une maladie et qu'ils disparaissent. Mais en fait, bon, alors déjà, il y a des ormes résistants, donc peut-être que c'est intéressant. Enfin, on peut en planter, c'est intéressant. Mais aussi, peut-être continuer à planter des ormes non résistants en se disant que c'est pas... Enfin, que on laisse la possibilité qu'il y ait des échanges et des échanges génétiques des populations. Enfin, l'évolution, en fait, des populations d'ormes. Même si on ne sait pas comment ça va se passer, on laisse, entre guillemets, une chance que ça puisse se passer. Et plus concrètement, la proposition sur laquelle on a terminé, qu'on n'a pas vraiment clôturé, donc Françoise, je vais faire la proposition, mais donc après on a eu des discussions sur ça, mais c'était d'avoir un... Ce qui fait qu'en 2050, ça va bien, c'est qu'on a réussi à mettre en place des projets qui allient... justement autour de cette génétique, on a mis des projets en place qui nous ont permis à l'échelle du territoire, entre citoyens, professionnels et chercheurs, on a réussi à observer, à cartographier de façon super précise tout le bocage, à la fois sur des observations type naturaliste et aussi sur des observations plus analytiques en faisant des analyses génétiques et quoi. On a réussi à identifier un peu les pools génétiques qu'il y avait, les endroits où il y avait beaucoup de biodiversité. Et en fait, on a mis en place des filières de collecte de graines et qui nous ont permis à la fois d'avoir une bonne continuité et d'avoir un pool de population et génétique très riche qui nous ont permis de ensuite l'utiliser au mieux et de choisir justement d'agir ou de ne pas agir sur les espaces boisés. Et voilà, et puis en plus du coup on a aussi la grande partie de la population a une bonne connaissance de la biodiversité, des espaces et aussi des aspects génétiques. Enfin voilà, en gros. Est-ce qu'il y a des petites réactions de gens qui connaissent 2-3 trucs sur le sujet qui voudraient.
Il y a un super orbe, je dirais, qui est résistant. Pour prendre des graines.
Ressources de graines.
AGM. Après Courteil.
Oui,
Après Courteil, juste après Courteil, dans la mention du lycée. Normalement, il y a un super orbe. Il est tout seul au milieu, dans la plaine. Là.
Un
orme. Il doit être résistant. Pour prendre des graines. Mais je ne sais pas.
Il a signé la déclaration des droits de l'homme.
Il est hors norme.
C'est plutôt que son proche voisin n'est pas trop naturaliste. Donc,
C'est qui
Non, ben non, non, le méthaniseur.
C'est
Ruel.
C'est sur ses terres.
Oui. Oui, il fait une tour, ouais. Mais je me demande si c'est pas un calvaire au plus loin.
Mais écoute, je crois pas.
C'est le plus sort de Courteil.
Tu gardes l'âme nationale?
Courteil lycée.
Vous irez ensemble. Vous irez ensemble.
Pardon. Direct sur. Alors, je vais me faire juste l'humble porte-parole du groupe. Qui était la question, c'était comment choisir parmi les usages du bois et si oui, comment le faire. On s'est dit qu'initialement, il faudrait faire un état des lieux, déjà, entre quels sont nos besoins vis-à-vis du bois, quelles sont les ressources vis-à-vis du bois et quels sont les usages. Et on a ressorti 6 besoins et usages. Le premier, le chauffage qu'on connaît toutes et tous avec d'innombrables. Options en dessous industriels, particuliers, publics, etc., etc. Il y a le bois de construction pour la construction. Il y aurait tout ce qui peut être aussi l'ameublement, qui peut être différent de la construction. Il y aurait l'être vivant, le bois en tant qu'être vivant, avec peut-être 3 bras pour cet être vivant. Donc il y aurait l'aspect nourricier, l'aspect biodiversité et l'aspect aussi beauté, santé, ce que nous apporte le bois en tant qu'être vivant. Il y aurait potentiellement, vu que là on serait vers 2025 et 2050, pour le carburant, potentiellement pour un type de carburant. Et le dernier qui est un peu annexe mais qui est quand même important, on a appelé ça entre guillemets litière, donc tout ce qui peut être sûr, paillage, etc., etc. Ça c'est l'état des lieux et du coup la question suivante c'est comment on fait pour choisir. On s'est dit que dans tous les cas il y avait 3 axes, 3 leviers qui sont les politique, économique et sociale, donc ça c'est les classiques, peu importe la thématique. Et la première question qu'on s'est posée déjà, c'est est-ce qu'on le fait de façon démocratique ou pas. Donc le ou pas, ça pourrait être une dictature, why not. Mais on est resté on n'a pas développé plus que ça sur la dictature, mais on est plutôt sur le démocratique. Enfin, entre les deux, qui serait déjà plutôt, en fait, entre les deux, entre le ou pas et le oui, ça serait contraindre dès maintenant, par exemple, la consommation de bois, donc pourrait y avoir des histoires de quotas, pourrait y avoir des leviers avec des régulations, donc régulations qui peuvent être liées au marché, au développement des infrastructures ou pas. Effectivement, on fait en sorte de ne pas développer trop d'infrastructures, donc comme ça on évite d'aller trop facilement rechercher la ressource en bois. Et après, dans le côté plutôt démocratique, là, si on va vers on pousse le curseur vers là, pourrait y avoir la création de comités de villageois ou de villageoises, citadines, qui pourraient écrire des chartes populaires pour dire, nous ici, dans notre comité, le bois, on considère plus sur l'aspect beauté-santé, donc on préserve plus là-dessus. D'autres comités pourraient avoir d'autres priorités. Il y a un aspect sensibilisation, on en revient toujours au même, de montrer et peut-être aussi de faire face à ses choix. C'est-à-dire, ok, je veux me chauffer au bois, ok, quelle est l'implication derrière en réel? Ça sort juste de ma tête en aparté, mais par exemple, on pourrait faire participer un citoyen, une citoyenne, à un chantier de coupe, par exemple de bois, s'il veut commander des stères. Voilà, comme ça, au moins, il se rend compte, ou elle se rend compte, de l'impact réel. Et après, on a une petite liste qui a commencé à émerger d'actions concrètes qui pourraient être, par exemple, l'hiver, se regrouper, par exemple, 4 foyers qui se regroupent au sein d'un seul foyer, donc pour réduire la consommation de chauffage, là, on est sur cet aspect-là. L'interdiction, par exemple, dans le bâtiment, de l'usage du bois sur tout ce qui ne serait pas structurel, donc de l'esthétisme, entre guillemets, pur et dur, qui n'aurait plus lieu d'être parce qu'on change les choses à partir de 2025. Un moratoire pur et dur sur les exportations de bois, au-delà de l'arabe. Un grand plan sur l'isolation, avant tout, de l'ensemble des logements et... équiper les logements en poêles de masse ou en poêles qui sont efficients et éviter les inserts et les cheminées qui sont plutôt un désastre. Moratoire pareil sur l'ameublement, pas d'ameublement et parce qu'on se dit qu'en fait on a déjà accumulé je sais pas combien de meubles et autres, on pourrait en fait avant tout les récupérer, les restaurer, etc. et ça serait déjà suffisant. Et enlever, dernier point, tout ce qui pourrait être rapport à l'esthétisme intérieur et autres dans l'usage du bois. Voilà, ça c'est en 2025 et à voir si ça marchera en 2025. N'hésitez pas à compléter les amis s'il y a des trucs que j'ai pas apportés.
Et pour explorer la piste dictature verte, ça se passe samedi, juste avant la soirée frites, on mange des frites.
Vendredi.
Vendredi, pardon. Oui. Et vendredi, 18h à la maison du parc, et c'est des discussions de comptoir, donc voilà, tranquille. Tu veux dire un truc ?
Je peux compléter, juste un tout petit peu par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. On a parlé de labels.
Mais c'est le mot de la fin du coup, on te donne là. Ouais. Ah, mais tu veux prendre le micro, vas-y. Non, mais c'est.
Je fais un micro mot pas de la fin et je te laisserai le mot de la fin. Donc, sur ce qui existe aujourd'hui sur les labels, sur la capacité. Enfin, il y a des contraintes aujourd'hui sur les approvisionnements. Donc, depuis janvier 2024, tout nouveau projet de chaufferie en Normandie qui intègre du bois bocager doit forcément intégrer une partie de bois labellisé, certifié labellisé. Là, on est dans l'ordre des 10% pour le moment. Et ça, c'est une nouveauté de cette année pour plusieurs raisons. Parce que le label, la certification, elle existe depuis très peu. Elle est reconnue par la PAC depuis l'année dernière. Et là, c'est l'ADEME de Normandie. Je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de national. Mais l'ADEME normande, qui est le financeur des projets de chaufferie bois, a imposé, s'il y a du bois bocager qui rentre dans les approvisionnements, il y a là forcément une partie, là c'est 10%, qui doit être certifié label E. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de ce qui se fait aujourd'hui dans l'état actuel de notre gouvernance collective, etc. Sur les contraintes qui peuvent se mettre, il y a des choses qui existent.
Ok, eh ben, ça va être la conclusion. Merci beaucoup, j'espère que vous avez passé un bon moment, parce que c'était avant tout l'objectif.
Il y a quelqu'un qui a 2 minutes.
Ah oui, vas-y, pardon.
Mais vous voulez nous donner le compte rendu?
Ah pardon, je pensais qu'on avait fait...
Non, c'est juste un petit complément.
Ouais, vas-y.
C'était sur la manière de former, ça pourrait être une exposition pour montrer bah, voilà, concrètement sur le territoire ou sur la commune ou autre, quelles sont les consommations, les besoins, par type, etc. pour montrer aux gens que bah, on a un impact supérieur à ce que la ressource locale peut fournir. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on met en place comme action et le rendre visible aux décideurs, aux politiques, à la société civile, etc. Et du coup, ça développe aussi potentiellement, je crois que c'est la vergogne, mais je ne sais jamais si c'est ça, c'est la honte ressentie par la pression de ses voisins, parce qu'on a un comportement qui n'est pas adapté aux normes sociales. Et donc, c'est ce que dit Aurélien Barraud, hein, le jour où on se foutra de la gueule de ceux qui ont des yachts, et ben, il y aura peut-être moins de gens sur les yachts. Et pareil, le jour où on utilisera du bois pour faire, je sais pas moi, du bardage qui ne sert à rien ou autre. Voilà. Vive la vergogne.
Trop bien. Eh ben, merci du, du complément. Ouais. Et
Il y a Michel qui veut.
Ok, ok. Bon, bah, on va être en retard. J'espère que vous avez rien prévu. Vas-y, je t'en prie, Michel.
Oui, ça me fait réfléchir quand même beaucoup la réunion, là, surtout quand on a parlé que ça pourrait devenir boisé partout en face. Alors, j'ai un peu d'espoir quand même, excusez-moi, parce que j'ai un peu d'espoir que quand pour 2050, s'il y ait des zones, par exemple, qui soient irrespirables. Par exemple, qu'il y ait des régions où il n'y a plus de bonne flotte, quoi. Que l'alimentation soit très chère. Je rêve que... à l'avenir, admettons qu'il y ait une bonne arrivée de néo-ruraux qui ont besoin de vivre. Il y a un puits là derrière, il y a 20 mètres de la maison. Il y a un champ devant, là on peut mettre une vache. Il y a des personnes, il y a des maisons qui vivaient, des familles avec deux vaches, un cochon et des moutons. Et je rêve, vous rendez compte, en 2050, ça au moins ça permettrait à des gens de vivre, quoi.
Ça, c'est un mot de la fin.
Ok, eh ben, ça y est, c'était vraiment le mot de la fin.
Clap de fin. Ouais. Bravo.
Merci beaucoup à tous, c'était trop bien. Je profite qu'on soit tous là pour laisser peut-être Marin introduire son atelier de ce soir.
Ah oui.
Dis-nous.
Je parle dans le micro.
Ouais, peut-être pas en fait.
Ouais, non, je peux
non c'est peut-être pas mal. Bon, d'accord. Ah, okay,
si tu veux. Si...
Bah, ça pourrait être de la matière.
À l'unique condition que ce fichier soit disponible uniquement sur le Bocaverse, hein, pas ailleurs.
Ouais,
sinon, c'est hors de question. Non, je rigole. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Marin. Je viens de Coutances dans la Manche. Donc, je suis un enfant du bocage. Pas celui-ci-là, mais bon, c'est le même, c'est des bocages frères. Et moi, je suis auteur, traducteur et éditeur. Je travaille beaucoup sur les sujets d'écologie. Et notamment, ce que j'ai beaucoup fait ces dernières années, c'est des ateliers d'écofiction. Et j'en ai fait à plein d'endroits et plein de publics différents. Donc, j'aime beaucoup cette idée de se projeter dans des futurs écologiques potentiels. Donc en fait, ça recoupe quand même plein de choses de ce que fait l'arabe et de ce que vous faites. Et une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est en Normandie, avec la Maison de l'architecture de Normandie, sur les liens entre les bassins versants, donc les fleuves et leurs affluents, et le bocage. Comment est-ce que le bocage vient en soutien du maillage du territoire par rapport aux circulations de l'eau? Et donc tout ça, voilà, amène plein de réflexions dont on discutera ce soir. Mais quand on a commencé à en causer ensemble avec les gens de l'arabe, et notamment avec Alice et Guillaume, on se disait que ce qui pourrait être intéressant, c'était du coup de réfléchir aussi au lien avec les autres bocages, et que cette république autonome du bocage, jusqu'où elle s'étend, quoi. C'est un peu ce truc d'un pays sans limite. Et donc on a eu cette idée de créer l'OBU, l'Organisation des Bocages Unis, dont on va écrire la charte fondatrice ce soir avec celles et ceux qui seront là. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas trop où ça nous emmène, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que l'OBU, ça pète.
Donc à mon avis, tout liquide permettant de faciliter la prise de parole sera bienvenu.
Exactement.